pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Elle s'est installée depuis plus de 2 ans maintenant dans un village des Côtes d'Armor, en Bretagne, pour enquêter sur l'industrie agroalimentaire. Elle raconte pour nous les avancées de son travail dans une série que nous avons appelée « Le journal breton » et qui en est à sa 2e saison, comme les séries de Netflix ou HBO, c'est aussi palpitant. Peu à peu, Inès Leroux, qui est aussi tenace et obstinée qu'elle est douce et attentive, a réussi à ouvrir des portes fermées à tous, à délier des langues, à forcer les administrations à répondre à ses questions, à convaincre ses voisins de l'accueillir dans leur poulailler industriel. Peu à peu, ses idées générales se sont affinées au contact du réel, ses convictions renforcées. Au tout début, elle se souvient avoir été frappée par le silence des Bretons quand elle les interrogeait sur les activités des industries agroalimentaires. Le silence et même la gêne, le malaise, les fins de non-recevoir, aussi bien chez les agriculteurs, les salariés, que du côté des pouvoirs publics bretons. Mais peu à peu, presque insensiblement, les gens ont aussi commencé à venir directement à elle. On vient l'informer de ce qui se passe dans tel abattoir ou tel conseil municipal. Mais la crainte et la peur dominent toujours. On demande à rester anonyme, discret, les propos restent informels, off the record. Inès comprend alors que la puissance de l'industrie agroalimentaire, la façon dont elle assoit son pouvoir, repose en grande partie sur le silence, sur la capacité de cette industrie à réduire à néant la plupart des critiques. Elle décide alors de rassembler des histoires, des témoignages, aussi modestes soient-ils, qui raconteraient justement les menaces, les pressions, les peurs et autres autocensures qui conduisent à ce silence, à la soumission et au maintien de l'hégémonie de l'industrie agroalimentaire bretonne. Certains des témoins entendus dans un cadre plus informel acceptent alors d'être enregistrés et de témoigner. Ça s'appelle la fabrique du silence, c'est toujours dans le journal breton, et on commence aujourd'hui dans les abattoirs avec 2 témoins jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Elle l'a trouvé. Nickel. On va se mettre là parce qu'il fait plus chaud. Parce qu'il y a du chauffage déjà et parce que l'autre, elle est hyper dure à chauffer.
Ok. Ça va?
Bah ouais, ça va. Bah oui, j'étais à l'infirmerie parce que je me suis fait mal au dos. C'était en mettant sur palette. Et en plus, là, on était à faire des lardons Lidl. Et les Lidl, ils veulent absolument qu'on aille jusqu'à la 9e rangée. Mais ça fait haut, quoi. Bah à un moment donné, le dos, il en a un peu marre.
Elle s'appelle Olympe, elle est salariée d'un abattoir breton. Elle travaille sur la chaîne, à la découpe et au conditionnement de la viande, toute la journée dans le froid, à 4 degrés.
Et puis, vous dites à votre chef, écoute, c'est bizarre, la température, elle a baissé, vous n'avez pas fait quelque chose. Bon, non, c'est pas quelques degrés, machin. Ben ouais, forcément, lui, il a un chauffage dans son bureau.
Les bruits des bacs qui s'entrechoquent, des scies et des voix humaines qui parlent fort pour s'entendre, rendent l'atmosphère assourdissante. Les mouvements de travail sont répétitifs, les cadences très élevées. Les conséquences sur le corps humain sont désastreuses.
Avec le temps, on a réussi quand même à prouver certaines choses. Donc il y a des inspecteurs, il y a des gens qui interviennent, des médecins du travail aussi, qui ont même écrit à un moment donné que ce qui se passait chez nous, on était au-delà de ce que l'être humain pouvait accepter dans la souffrance.
La grande majorité des salariés ont régulièrement des tendinites, des lumbagos, et sont opérés d'un poignet, d'un coude ou d'une épaule. Olympe est déléguée syndicale de l'abattoir.
Avant que je sois déléguée, je voyais déjà des choses qui se passaient, où on mettait la pression sur les gens, du style « Bon, écoute, si tu n'acceptais pas cet horaire-là, par exemple, on ne te donnera pas tes vacances comme tu veux. » Enfin, après, il y a la pression de la hiérarchie, parce que nous, on a quand même pas mal de responsables, des hommes beaucoup, qui se sentent un petit peu au-dessus du lot. D'ailleurs, il y en a certains qui vous disent « Moi, j'étais à l'école, toi, t'as pas été à l'école. » Donc, voilà, c'est normal que tu sois à ce poste-là. Donc, il faut essayer de vexer les gens. Il faut essayer de les humilier pour qu'ils aient de moins en moins confiance en eux. Puis ça marche très bien, ça. De dire que « Mais t'as pas fait le tonnage. »
C'est quoi le tonnage ?
vous devez faire tant de palettes ou tant de poids à l'heure ou sur la journée, c'est pas fait. Donc là, vous allez avoir une certaine pression. Mais même si c'est fait parce qu'ils en veulent toujours plus, on vous dira que c'était pas bien. Alors que si ça se trouve, le tonnage, il était super bon, mais bah voilà, il faut continuer à humilier la personne. Mais cette fameuse cadence-là, ils le savent qu'ils ont tort. Puisque quand il y a des visites, il y a les inspecteurs du travail, il y a les élus éventuellement, ils baissent les cadences. Vous allez arrêter d'aller aux toilettes en dehors du temps de pause. C'est ce qui a été sorti il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai été interpellée des fois, les gars ils me disent « Mais je peux pas aller aux toilettes, là, j'ai personne pour me remplacer. » Alors, je vais voir le responsable, il me dit « Ah non, mais là, il te dit des conneries parce qu'il peut y aller tant qu'il veut. Il y va, il sort de la chaîne. » Mais je dis « Mais oui, mais sauf que s'il sort de la chaîne, ça fait une personne en moins, donc il a le sentiment de laisser les autres dans la mouise. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il peut y aller. » Et ben, du coup, le gars, il a tellement pas envie de laisser ses collègues dans la mouise qu'il y va pas. C'est de l'esclavage. Il y a des fois des jeunes là qui viennent d'arriver et on les retrouve un peu paumés en salle de pause, ils pleurent et tu dis mais tu vas où là? Ben ouais, ça va pas quoi, c'est beaucoup trop dur quoi. Donc avant qu'ils se barrent, des fois on peut le ramener vers l'infirmerie quoi, déjà pour, parce que c'est aussi de la prévention, on peut pas laisser quelqu'un partir comme ça.
Il y a quelque temps, Olympe et sa section syndicale ont refusé de signer des accords demandés par la direction de l'abattoir, accords qui prévoyaient de baisser les revenus des salariés en leur supprimant certains avantages. Un long bras de fer entre la direction et les salariés conduira ces derniers à entrer en grève. Mais dès avant le début de la grève, Olympe commence à subir des pressions.
Donc, y avait un de mes responsables qui était venu en salle de pause alors que j'étais pas présente. Dire à mes collègues, c'est elles qui m'ont répété. Il leur a dit, écoutez, vous lui dites à votre délégué de signer l'accord. Sinon, vous ne votez pas pour elle aux prochaines élections. Et donc, quand je suis arrivée à 13h, ils m'ont dit, tu vas pas être contente. Hein. Il a dit ça, machin, ok, d'accord. Et j'ai eu des pressions sur ma vie personnelle. On m'a tagué mon local. Je travaille en atelier de 5 à 9 et je sortais à 9h pour être en délégation. Et donc, ce matin-là, j'avais ma collègue. Et bon, elle essayait de m'appeler et tout, mais je ne sais plus ce qu'elle a. Et je décroche, elle me dit « Ah, viens vite, on s'est fait taquer de local. » Bon, j'ai dit « Écoute, bouge pas, j'arrive. » J'arrive et je monte l'escalier. Et en haut de l'escalier, il y a un autre local avec une grande vitre. Et c'était marqué le nom de l'entreprise de mon ex qui avait déposé le bilan. Et c'était marqué « Égal mon nom de famille ». J'ai compris qu'ils voulaient me foutre la pression pour que je signe les accords, qu'ils allaient continuer à balancer des trucs. Ben voilà, elle était avec quelqu'un qui avait une entreprise et qui a fait des pots de bilan et elle est capable de nous faire la leçon, quoi. Et elle veut pas signer nos accords, qui sont forcément bons. Donc là, j'ai appelé mon avocat, il me dit, oh là là, vous dérangez là. Et donc il me dit, vous allez tout de suite à la gendarmerie, vous portez plainte. Je suis allée à la gendarmerie, le gendarme me dit, oui, mais enfin bon, on vous a pas tapé, on vous a pas machin. Alors là, vous vous dites, vous avez quand même un peu les boules, on vient de vous remuer un peu dans vous-même. Vous pensez à votre famille, parce que vous dites, si mes enfants apprennent ça, machin, vous pouvez même pas en parler. Et l'autre, il vous dit, on vous a même pas foutu une claque, enfin bref, donc je peux pas prendre votre plainte.
Olympe n'est pas seule à connaître cette difficulté. Des salariés, des habitants et des avocats m'ont parlé eux aussi des obstacles qu'ils rencontrent lorsqu'ils souhaitent déposer au commissariat une plainte mettant en cause les activités d'un groupe agroalimentaire.
Alors je reste calme et je lui fais, ok. Alors si demain, à cause de cette histoire-là, j'ai des problèmes, ou quelqu'un d'autre a des problèmes, vous serez responsable. Bon, c'est bon, je la prends, votre plainte. Donc il me prend ma plainte, mais évidemment ça n'a pas été... Ça n'a pas été gardé par le procureur, puisque c'est comme ça. C'est, tu portes une plainte et le procureur il décide ou pas de continuer l'affaire. Et après, on a reçu une lettre anonyme dans le local. Bah, apparemment, tous les syndicats l'ont reçue. Et pareil, on relatait le fait que dans les délégués, il y en avait certains qui avaient eu des entreprises. Et, ils sont dégueulasses parce qu'ils savaient que... Je pense qu'ils savaient que j'en chiais et ils continuaient quand même à remuer le couteau dans la plaie. Je trouve ça... Mais ça veut dire qu'ils achètent plein de gens comme ça, sûrement. Que ce soit chez nous, que ce soit chez les éleveurs. Peut-être au niveau de l'administration, des politiques.
Est-ce que vous avez subi d'autres formes de pression en tant que délégué syndical?
Ah ouais, j'en ai eu une. J'étais au pâté. Des moulages pâtés. Donc, c'était un poste assez physique et on m'avait mis là. C'était au début que j'étais déléguée, donc je pense que c'était un petit peu pour me punir. Et j'étais avec des hommes. Et un matin, oh, j'étais pas bien. Et il y a un de mes chefs qui me dit, bah, ça a pas l'air d'aller, toi. Un petit chef, hein, mais sympa. Bah, j'ai dit, non, écoute, faut que je te dise, je suis enceinte, et là, les odeurs et tout, fou, ça va pas. Ah, il me dit, mais t'as placé pas ici, qui me dit, tu vas aller voir le chef à 8h, et puis il va te changer de poste. Ok. Donc, je vais le voir. Bon, alors voilà, je suis enceinte, mais ça va pas du tout, là, au démoulage, je peux plus, quoi. Tu y retournes, on verra ça plus tard. Ok. Ben, j'y retourne. Et ben, il y a l'histoire de mon chef qui, un jour, j'étais à scier des poitrines. Et c'est vachement dur. Hein. C'est à la Sibiro, là. Il faut les attraper déjà. Il faut les décoller du chariot. Enfin, c'est hyper dur. Et il était derrière moi. Et il me fait « Tu serais un mec, il y a longtemps que je t'aurais cassé la gueule. » Ça, c'est des pressions comme ça. Ils se croient tout permis, eux.
Est-ce que parfois, on a essayé de vous dessaisir de votre mandat syndical ?
Oui, on a essayé ça. On a été voir mon responsable national de mon syndicat. On lui a expliqué qu'on ne pouvait pas travailler avec moi parce que j'étais trop revendicatrice. Donc, ce jour-là, je me suis dit, ben super, on n'est pas bien là.
Parce que là, vous vous retrouvez avec votre propre hiérarchie syndicale qui se retourne contre vous.
Ouais. Là, il faut être costaud. On met une réunion en route. On dit, aujourd'hui, on va voir un peu comment fonctionne votre section. Si demain, par exemple, vous deviez lâcher des mandats, qu'est-ce que vous feriez ? Je la regarde, j'ai fait... Non, mais vous croyez pas, j'ai compris, là, que vous essayez de me faire sortir par la grande porte, là ? Et là, les gens... Mes délégués commencent à comprendre. Non mais alors si elle part, nous on se barre aussi. Hein. Hop, terminé. Elle a remis ses affaires dans sa valise, elle est repartie. Parce que tous les autres, ils disent, bah, ok, bah, si elle part, on part avec. Hein. Bon. Et puis pendant la grève, il y a un responsable syndical qui vient me voir sur un piquet de grève et il me dit, je peux te parler. Bah ouais, pas de souci. Il me dit, tu viens dans ma voiture? Bah ouais, moi je me méfie même pas. Je monte avec mon drapeau syndical. Je m'assois, il me fait « Bon, ça suffit tes conneries maintenant. » Je dis « Pardon, t'es venu pour me dire ça ?» Là, j'ouvre la porte, je me barre. Il me court après. Et parce que moi, je retourne avec mes grévistes, quoi. Et je me rappelle, il y avait un grillage, j'étais contre le grillage. J'ai dit, non, mais ça suffit maintenant. C'est pas la grève de ta grève à toi. Ok ? Donc, faut que t'arrêtes tes conneries. Et là, il y a un gars qui arrive et il lui fait « Non, mais attends, c'est notre délégué, là. On en a besoin. » Il est reparti. Puis, il y a une fille qui vient me voir. Elle me dit « Mais c'est qui ce gars-là ?» Là, carrément, j'avais honte. Je dis, ben, c'est un mes responsables syndicaux. Là, j'avais envie de pleurer.
Dans le témoignage d'Olympe et dans les récits que je recueille en général, je suis sidérée par les canaux inattendus qu'empruntent les pressions et les menaces. Olympe, donc, en a reçu de ses supérieurs à l'abattoir, de ses responsables syndicaux et de la part des éleveurs. Pourtant, ces derniers, eux aussi, souffrent du peu de rémunération qu'ils reçoivent des filières agroalimentaires. Ainsi, des personnes qui, en toute logique, pourraient être solidaires, se terrorisent entre elles.
Alors, les agriculteurs, oui, pendant la grève, ils sont venus avec leur tonalisier, leur tracteur pour nous évacuer. Et ouais, ça suffit, ils sont tous arrivés, ils sont arrivés avec leur gros véhicule. Ah, ça suffit, ils ont voulu nous attraper, moi et ma collègue. Il y en a un, il s'est collé à moi, et il me fait, t'es contente, hein, tu jouis, là. On dit, mais... Enfin, c'est pas normal ce qu'ils nous font, là. C'est pas normal. Donc, je dis, on devrait aller porter plainte à la gendarmerie. Donc, on va à la gendarmerie. C'est pas évident, hein. Parce que quelqu'un qui est faible, il va pas forcément y aller parce que il se dit, pour si peu, je vais pas en prendre plein ma gueule. Et le gendarme me dit, bon, ben voilà pourquoi vous venez, donc je lui raconte. Il me fait, vous avez pas l'impression de jeter de l'huile sur le feu, là. Et c'est fou, hein. Il vous ferait même culpabiliser. Tu dis, alors c'est de ma faute, là. C'est peut-être de ma faute. Je l'ai provoqué, machin. Je ne l'ai pas provoqué du tout. C'est fou. Et j'ai su après, parce que quand ils sont venus dès 5 heures le matin avec leur tracteur et tout, le directeur lui-même était avec les éleveurs et il leur disait « Foutez-moi ça dehors !» Ça veut tout dire, l'image qu'il a de nous, quoi. Il n'a pas le choix. Il faut des pauvres gens comme nous pour travailler. Donc, c'est pour ça qu'il nous garde. Mais il n'a aucune estime pour nous.
Est-ce que votre plainte, elle a abouti ?
Ah non. Ah bon, non. Bon, voilà, non.
Et pourquoi, en fait, les agriculteurs avaient intérêt à casser votre grève ?
Eh bien, en fait, on filtrait les camions de bêtes. Donc, du coup, ils n'étaient pas abattus. Et puis, on avait des chauffeurs qui s'étaient mis en grève. Donc, il n'y avait pas de ramassage des animaux dans leur ferme. Donc, ça bloquait.
Du coup, ça a dérangé les agriculteurs, cette grève ?
Ça dérangeait certains agriculteurs. Parce qu'à contrario, on avait des agriculteurs qui nous soutenaient. Ils m'envoyaient des SMS. Ils me téléphonaient en disant « Surtout ne lâchez pas. On n'est pas d'accord avec la politique de l'entreprise. Ne lâchez pas. » Donc, nous, on se disait « Ben, venez nous aider. » Mais ils disaient « Ben, on peut pas, parce que si on est reconnu, on est foutu, quoi. » On est foutu, on prendra plus nos animaux. Donc voilà.
Finalement, la grève a permis le maintien des primes des salariés. Quant au silence des agriculteurs évoqué par Olympe, dans les prochains épisodes du journal breton, nous décrirons les pressions et les menaces qu'ils reçoivent eux aussi, et de la part de qui. Mais pour le moment, restons à l'abattoir.
Denis Lagrue, donc je suis vétérinaire à la retraite maintenant, depuis 2 ans, et j'ai été pour partie vétérinaire praticien en élevage, en Bretagne. Et puis en 90, donc j'ai passé un concours de vétérinaire inspecteur, et la direction de service vétérinaire m'a donc donné ce poste à l'abattoir de Guingamp. Pour moi, ça a été passionnant. Dans la mesure où j'ai découvert un univers que je connaissais pas, c'est-à-dire l'univers de l'hygiène alimentaire, de la protection du consommateur, dans un milieu d'entreprise agroalimentaire qui est extrêmement basé sur le profit. En agroalimentaire, c'est extrêmement fort, hein. C'est souvent des gens qui sont partis de peu, et qu'ont monté dans ces fameuses 30 glorieuses leur affaire. Et parfois, c'était de simples artisans charcutiers au départ, quoi. Donc, ils se retrouvent avec des entreprises de fabrication de sandwichs énormes, etc., alors qu'ils ont commencé dans un petit labo dans le sous-sol de la maison, quoi. Donc, tout ce milieu d'entrepreneurs agroalimentaires a fait un petit peu des réussites comme ça spectaculaires à cette époque-là. Bon, c'était des gens extrêmement battants et difficiles à contrôler. Parce que les cadences deviennent énormes, les volumes sont énormes, donc les contrôles tels qu'ils étaient organisés jusqu'à présent sont un petit peu à bout de souffle. Bon, on se rend compte que, en fait, l'inspection visuelle, sur laquelle est basée l'inspection jusqu'à présent, elle suffit plus. Que les gros problèmes sont les problèmes de résidus. De résidus, de médicamenteux, résidus de pesticides, etc. Antibiotiques, vermifuges, etc. Et puis, l'idée, en gros, de la DGAL, c'est...
DGAL, Direction Générale de l'Alimentation.
Voilà. C'est de remettre la responsabilité à l'industriel. Je vais faire simple, mais dire c'est vous qui êtes responsable de ce que vous produisez. À vous de mettre en place des process et un système pour garantir que vos produits sont sains, on va dire. Et s'il y a un problème, eh ben nous on sera là pour vous pénaliser. On prend plus la responsabilité de vérifier nous-mêmes que le produit est conforme. Mais là, le problème qui se passe, c'est que dans l'univers de l'agroalimentaire, eh ben, on essaye toujours d'aller au plus rentable, au plus économique, etc. Ce qui, malheureusement, quand même, est souvent contradictoire avec les buts recherchés, donc de salubrité et de sécurité alimentaire.
Les vétérinaires et inspecteurs sont aujourd'hui dans les abattoirs uniquement pour vérifier les résultats d'analyses chimiques effectuées par l'entreprise et pour procéder à un contrôle visuel des animaux. Ils sont en sous-effectif et ne peuvent pas être présents sur toute la chaîne. Et quand ils sont présents, les rythmes d'abattage sont si élevés qu'ils ont quelques secondes seulement pour inspecter chaque bête. Ils doivent donc se faire un avis rapidement et dans des conditions compliquées.
Par exemple, vous allez avoir régulièrement des animaux qui arrivent, qui peuvent pas avoir supporté le voyage. Vous avez par exemple un animal qui a passé la nuit dans l'abattoir et qu'on retrouve agonisant le matin. Faut-il essayer de l'abattre quand même en vitesse et le faire passer sur la chaîne ou pas? Et si vous dites euthanasie, c'est perte sèche pour l'abattoir de la bête. Donc à ce moment-là, vous allez avoir une influence de l'abatteur pour faire passer forcément la bête sur la chaîne. Donc il y a toujours une espèce de bras de fer, quoi. C'est quotidien. Donc voilà, là à ce moment-là, c'est le vétérinaire inspecteur qui doit s'imposer pour entraîner la décision, quoi. Mais voilà le genre d'attitude qui peut se développer avec ce système où on confie finalement à l'entreprise, à l'industriel, son autocontrôle. Sur par exemple les analyses microbiologiques, on a un beau modèle en Côte d'Armor où justement une grosse entreprise a été condamnée sévèrement parce que elle avait caché au service vétérinaire des mauvais résultats.
Vous parlez de la Coperle,
par exemple, ouais.
Le plus gros abattoir de porc qui a caché une contamination par la salmonelle.
Oui. Ben c'est typique des influences. Bon, là ce vétérinaire effectivement s'était rendu compte que toutes les analyses sur ces lots qui étaient contrôlés de façon microbiologique par l'abattoir, toutes ces analyses étaient bonnes. Et il se disait que c'est quand même bizarre qu'il n'y en ait jamais de mauvaises. Donc, lui, il a un gros climat de suspicion qui monte. Mais pour arriver à provoquer de sa hiérarchie une réaction, ça a été très long.
Donc, vous voulez dire que ce vétérinaire a signalé à sa propre hiérarchie des services vétérinaires?
Oui, qui a mis un peu de temps à réagir. Hiérarchie qui est extrêmement dépendante du préfet. Le préfet, grosse entreprise, création d'emplois, etc. Enfin, voilà, il y a une espèce de pression déjà qui se fait à ce niveau-là. Et puis finalement, c'est sur intervention de la brigade de la DGAL, une brigade spéciale, mais là où il y a des gens extrêmement formés, que l'affaire a été découverte. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une double documentation avec tout simplement des résultats qui devenaient bons, alors que sur les analyses, ils étaient mauvais. Il y a beaucoup de vétérinaires qui auraient lâché l'affaire. Dernièrement, j'ai une ancienne collègue qui a essayé de faire d'un gros travail sur la protection animale. Eh bien, c'est elle qui a fait un burn-out, hein, et qui maintenant a craqué. Je crois d'ailleurs qu'elle a quitté carrément son métier, qu'elle pouvait plus supporter.
Elle était inspecteur vétérinaire dans un abattoir.
Elle était inspecteur, oui. J'ai vu comme ça des agents changer petit à petit dans leur engagement, dans leur mission, parce que à un moment vous avez un peu peur ou vous faites attention. Quand vous trouvez une petite pointe de couteau sur votre tablier le matin, vous posez des questions, quoi.
Planté dans le tablier ?
Des petits coups évidents de couteau dans le tablier, des petites coupures. C'est des messages, j'allais dire, subliminaux, hein, qui, accumulés, finissent par faire que vous évitez de voir certaines choses, etc. Par exemple, pour respecter l'abattage, la saignée dans un abattoir, il faut un minimum de temps. Un animal, des fois, il met un peu de temps à perdre conscience, etc. Bon, mais si il y a une pression de la cadence pour pas qu'on ralentisse la chaîne, celui qui est à la tuerie, il va avoir tendance à laisser passer une bête qui est un peu plus consciente qu'elle ne devrait. Mais le jour où il va être pris, ce monsieur, c'est-à-dire qu'il va y avoir un PV parce que on l'a pris sur le fait, ben les cadres vont dire « Ah ben, on leur a bien dit qu'il fallait pas faire ça, etc., qu'il fallait les garder. » Alors qu'on leur, quand il y a un trou sur la chaîne, c'est eux qu'on va, à qui on va faire des remontrances, en dire bah, « Enfin, ça avance pas, etc. » Elle peut être là, l'influence, c'est-à-dire la peur de sanctionner quelqu'un pour une faute que vous pouvez relativiser, sachant que vous allez le mettre en péril devant sa direction. Ça, par contre, ça, je l'ai vécu souvent. Ça m'est arrivé de convoquer quelqu'un, voilà, en l'avertissant, quoi, mais oralement, pour pas que ça remonte tout de suite à son entreprise, parce que je savais que il pourrait avoir de gros soucis. Il y a une espèce de renoncement parce que devant la difficulté, ben c'est du stress, c'est des insomnies. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Oh, je crois que oui, sur les dernières années, j'avais baissé un petit peu la garde, certainement. Ouais. C'est épuisant de se battre. Je vous dis, il y a cette espèce de climat général qui fait que, oui, on a peur de passer pour l'emmerdeur, etc. Alors c'est de l'autocensure. Ouais.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le journal breton, deuxième saison, avec La Fabrique du Silence, un reportage d'Inès Leroux, réalisé par Cécile Lafont. Merci aux deux témoins, ainsi qu'à Alice Sternberg. Nous avons un compte Twitter et une page Facebook qui vous attendent avec impatience. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, comment l'oublier ?
Underneath my fingers, waiting to be sung. Nothing will be written, and not one lover will I love. No song will I be singing if it's will unwritten.